franceinter.fr.
Bonjour. Un batteur est l'invité de, vous avez dit, classique aujourd'hui. Discret, mais tellement présent dès qu'il s'agit de remonter sur scène. Et comme c'est le cas depuis peu avec les membres de leur feu groupe téléphone, le voilà auprès de nous aujourd'hui, Richard Kolinka, batteur des Insus, membre et pilier fondateur de Téléphone, qui reste un des groupes mythiques du rock français des années 80. Et c'est mon invité aujourd'hui. Bonjour Richard Kolinka.
Eh ben bonjour.
Très contente de vous recevoir. On va avoir une approche très insolite de la musique classique aujourd'hui.
D'abord, ça, on peut le dire. Oui,
d'abord parce que ce n'est pas la musique que vous écoutez le plus.
Ah, ça, c'est sûr.
Et ensuite, parce que vous l'avez découverte par un biais finalement pas rare, mais quand même un peu, c'est par le cinéma.
Exactement. Moi, j'ai découvert la musique au travers du cinéma, notamment Amadeus, Orange Mécanique.
Oui, Stanley Kubrick, visiblement, est assez présent quand même.
Oui, et puis il y a eu aussi Mort à Venise.
De Visconti.
De Visconti. Et voilà.
Et puis, il y aura donc, du coup, Mozart, Strauss, Mahler. Et puis, en tant que batteur, comme votre oreille s'intéresse aussi au caractère percussif de la musique, il y aura, bien sûr, du Stravinsky. Et puis, du Pierre-Henry. Ça, c'est pour vous faire découvrir encore d'autres choses et des nouveautés.
Faites-moi rêver.
Mais pour commencer, je le disais, ça va être très insolite. On va commencer par les Beatles. Vous avez choisi un titre sorti en 1966 où les Beatles se sont dit, tiens, si on se tournait vers un arrangeur, se sont tournés vers George Martin, qui a proposé une instrumentation classique à ces musiciens qui,
exactement,
pour l'instant, ne faisaient que des musiques, des instruments qui étaient les leurs. Et on a un double quatuor à cordes pour Eleanor Rigby. Vous l'avez découvert à sa sortie, cette chanson, ou un peu plus tard? Parce que vous étiez jeune à ce moment-là, quand même.
Oui. il me semble que j'ai découvert à sa sortie, j'en suis pas... Peut-être ou un peu plus tard, mais enfin bon, c'est pas grave. Et cette version existe d'ailleurs en version playback, c'est-à-dire sans la voix de McCartney. Et là, on s'aperçoit de la richesse de l'arrangement. C'est exceptionnel.
Et vous, quand vous l'avez entendu, votre oreille s'est tournée vers l'instrumentation classique. Enfin, je veux dire, vous l'avez perçu ou c'est pas immédiatement, Richard Kolinka?
Peut-être, je me souviens plus trop. En fait, à l'époque, j'écoutais, je savais même pas que la musique existait. Quoi. J'ai découvert ça là, comme ça par hasard, et j'étais attiré par cette mélodie et puis par les violons. C'était original à l'époque de mettre des violons dans un groupe, surtout notamment les Beatles, qui étaient plutôt entre guillemets rock, pop. Et donc tout d'un coup, découvrir des violons et la voix toute seule comme ça, c'était tiens. Que se passe-t-il?
Alors visiblement, les musiciens de l'époque étaient un peu choqués parce que la prise de son a été audacieuse pour l'époque. On avait mis les micros quasiment collés sur près de l'âme des instruments, ce qui fait cette proximité sonore. Et George Martin aussi avait demandé à ses instrumentistes de jouer de cette manière particulière parce que justement, l'un des musiciens des Beatles trouvait que, je crois que c'était Paul McCartney, trouvait que, d'accord, on pouvait avoir des instruments à cordes, mais il fallait quand même qu'ils sonnent un peu rock, donc il fallait les faire grincer.
Oui, il voulait, mais vous y étiez, c'est pas possible, vous êtes vraiment au courant et tout. Non, mais oui, il voulait entendre le son de l'archer, vraiment le frottement de l'archer sur les cordes, et voilà, et c'est réussi.
Donc vous y étiez aussi, vous, Richard Kolinka?
Exactement.
Bon, bah alors on l'écoute, ce titre, Eleanor Rigby des Beatles. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All alone. people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Et ça chante dans ce studio, Eleanor Rigby des Beatles, pour commencer cette émission avec vous, Richard Kolinka.
Magnifique,
et effectivement, la présence des cordes, vous les chantiez, hein, parce que c'est vraiment, ça fait partie de cette
C'est magnifique, en plus ça paraît simple et c'est fantastique, c'est les contre-chants au violon, enfin bon, c'est... voilà.
Alors vous le disiez à l'instant, Richard Kolinka, vous ne... connaissiez pas la musique, voire ça n'existait pas dans votre monde, la musique. On n'écoutait pas de musique chez vous, enfant ?
Ah, pas du tout. Bon, voilà, installez-vous, je vais vous parler de ma vie. Donc, non, je savais pas. Moi, j'ai découvert la musique sur le tard. Enfin, sur le tard, je devais avoir 12-13 ans. Avant, moi, je dis, je suis né, ma merveilleuse maman m'a mis au monde. Après, j'ai traversé des périodes, voilà.
L'enfance, mais vous n'avez pas de souvenirs de l'enfance ou...
Non. Si, bien sûr que j'ai des souvenirs. Mais enfin, bon, voilà, je sais pas trop où j'allais, mais j'y allais. Et puis un jour, c'était en fin d'année scolaire, on a fait une rencontre de hand dans un stade à l'extérieur de... Je crois que c'était vers la porte de Vincennes. Et en partant de ce stade, je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, je vois un groupe de rock répété. Et je suis resté fasciné de cette... Il y avait une baie vitrée, ça je m'en souviendrai toujours. Pour moi, je le découvrais comme Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Quoi. C'est genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et un mec de mon école, de ma classe, me tape sur l'épaule et me dit, t'aimes la musique, t'es musicien? Je lui dis, non. Il me dit, écoute, si tu veux, viens demain, on répète, je joue avec un pote qui s'appelait Daniel Roux et... Celui qui m'a tapé sur l'épaule, c'était Luc Boiseau. Je les remercie vraiment. Et donc, le lendemain, je vais effectivement chez lui. Et puis, ils me disent, prends une guitare. Et c'était l'époque où, je me souviens, voilà. C'était Hey Joe, la version Hendrix, bien sûr.
Hey Joe, ouais.
Voilà. Et ils me disent, tu vas faire la basse. Bon, je savais même pas ce que c'était que moi, la basse. Et puis, il me montre et j'appuie sur les cordes. Je dis,
Ça va pas le faire.
Non, ça va vraiment pas le faire. Et puis, alors ça, c'est la magie, le hasard de la vie. Il y avait une vieille caisse claire qui était dans un coin avec une pauvre paire de baguettes. Elles étaient tordues. Et je vois cet instrument en me disant, qu'est-ce que c'est? Donc, je m'approche. Tout doucement, je prends les baguettes. Il y avait un vieux fauteuil aussi. Et puis eux, ils démarrent le morceau Hey Joe. Et moi, je fais boum. Enfin, je sais plus ce que je fais d'ailleurs. Et je tape. Et tout d'un coup, ma vie a basculé. Et ils m'ont dit, tu seras le batteur du groupe.
Eh ben pour aller dans ce basculement, on va poursuivre avec une symphonie qui a un côté narratif, puisque les instruments nous conduisent dans une forme de suspense, hein, avec comme vous veniez le faire, avec un thème dramatique et violent, que d'ailleurs Miloš Forman a utilisé dans le générique de son film Amadeus. C'est la 25e symphonie en sol mineur de Mozart, et elle a quelque chose de très rythmique, peut-être même qu'on pourrait imaginer un peu de batterie dessus, pourquoi pas, en tout cas ça danse, clairement.
Si jamais Mozart me demande, j'irai faire une petite batterie, oui, je lui donne.
On écoute l'Allegro con brio de la 25e symphonie en sol mineur de Mozart.
Thank you.
un extrait de la 25e symphonie en sol mineur, l'Allegro con brio, interprété par l'Académie Saint Martin in the Fields, dirigée par Neville Marriner, qui était d'ailleurs l'orchestre qui interprétait dans le film de Milos Forman, Amadeus. Pour vous, et pour, chers auditeurs, et pour vous, Richard Kolinka, pour parler de cette découverte, donc cette 25e symphonie, c'était par le film de Milos Forman ?
Ah, totalement. Bon, je l'avais déjà entendu, c'est quand même, entre guillemets, un tube. Mais quand j'ai découvert ce film, j'y suis allé un peu à reculons, mais enfin, même pas, parce que, bon, Milos Forman, on peut lui faire confiance. Et quand j'ai vu ce film, je ne sais plus de quelle époque il date, ce film. Mais pour moi, tout d'un coup, je découvrais un Mozart que je ne connaissais pas, c'est-à-dire c'est un être révolté, très, entre guillemets, très rock. Enfin, c'était presque punk. Enfin, et en même temps, le talent de ce type. Enfin, c'est...
1984, le film.
Merci.
Et c'était c'était un choc pour vous qui étiez à ce moment-là en plein boom, on peut dire, en tant que rocker, c'était possible de se dire tout d'un coup que la musique classique avait quelque chose de rock.
Des pattes qui poussent et la banane. oui, c'est ça. C'était je connaissais Mozart bien sûr, mais là tout d'un coup on le découvrait. On découvrait sa vie. Alors, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est
un petit peu arrangé.
Bon, je pense que c'est arrangé, mais quand même, c'était Et puis tout ce qu'il a pu composer. Moi, ce qui m'épate beaucoup, c'est comment ces types arrivent à avoir toute la musique dans la tête, d'écrire pour les hautbois, pour les violons, pour les timbaliers, pour.
Ça vous fascine encore ?
Ah ben complètement.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil sur France Inter.
Le cinéma, Richard Kolinka, vous dites, vous a fait découvrir beaucoup de musique classique. Alors il y a aussi 2001, l'Odyssée de l'espace.
Oui.
De Kubrick.
Exactement.
Qu'est-ce qui vous a frappé ? Parce que je crois que Kubrick était un grand spécialiste pour utiliser la musique dans un rôle narratif. Du coup, est-ce que la musique apparaît plus clairement quand la musique est utilisée à ce dessin-là ?
Oh, je sais pas. J'ai l'image aussi dans ce film. Je crois que les premières images, c'est de voir ces singes, nos ancêtres, prendre des bouts de bois et taper sur des troncs d'arbres. Et c'est la première musique, c'est la percussion, en fait. Voilà, nous sommes des pionniers, quand même, nous les batteurs.
Et du coup, oui, c'est vrai que... Bon, du coup, on va peut-être
écouter... Je vais me laisser pousser les poils.
Un extrait de « Ainsi parlait Zarathoustra » de Richard Strauss, où là aussi, les timbales ont une place
exactement
évidente.
Thank you.
Le poème symphonique ainsi par les Zarathoustra de Richard Strauss, dirigé par Laurine Maazel et interprété par l'Orchestre symphonique de la radio bavaroise. Et là, on est dans le cœur à la fois d'un film et d'une musique qui en soi parle, Richard Kolinka.
Ah là, il y a de la percue, là.
Il y a de la percussion. C'est ce que vous écoutez beaucoup la percussion, vous, quand vous écoutez de la musique?
Non, pas spécialement. Bien sûr, oui, mais bon, pas que. Je suis attiré par... par les mélodies, par... voilà. Après, ça peut aller de la musique classique au rock, en passant par le jazz. Voilà, c'est un peu de tout.
Alors, on va revenir quand même à l'adolescent que vous avez été, à 12-13 ans, qui découvre la musique et qui se met à jouer de la batterie. Est-ce que, du coup, le jeune adolescent que vous étiez se met à taper sur tout ce qu'il peut? Enfin,
oui. Oui, effectivement, mais toujours. D'ailleurs, je pense que je suis assez chiant à table parce que je tape tout le temps. Mais oui, bien sûr. Et heureusement, à l'époque, moi, j'avais pas les moyens de m'acheter une batterie, donc les lessives étaient dans des barils de carton. Donc moi, je tapais sur mes barils de carton, et pour moi, c'était des batteries extraordinaires. Je trouvais que, puis un carton n'avait pas le même son qu'un autre. Enfin bon, c'était... Quand on est môme, on s'imagine. Pour moi, ça avait un son exceptionnel. Et puis, j'étais avec mes deux potes, on faisait de la musique, et il n'y avait que ça qui comptait.
Et pour vos parents qui ne vous avaient jamais fait entendre de musique, est-ce qu'ils vivaient avec quelqu'un qui était très loin d'eux, un extraterrestre? Ou comment ils ont pris ça?
Ils se posaient beaucoup de questions, parce que pour eux, la musique, c'était... Ça n'est, enfin, voilà, ils comprenaient pas trop ce qui arrivait à leur enfant. C'est genre, pourquoi tu nous parles de musique? C'est quoi la musique? Tu veux en faire ton métier, mais ça va pas.
Parce que très tôt, vous avez su que vous vouliez en faire votre
métier. Ah, mais tout de suite. Ça a été du jour au lendemain. Dès que j'ai eu les baguettes en main et que mes petits camarades m'ont dit, voilà, t'es le batteur du groupe. C'était fait. Je savais que j'allais devenir batteur.
Et alors, téléphone, ça s'est fait vite?
Ah, pas du tout.
Ah,
ça
non.
A été une longue
après,
histoire.
Après le lycée.
On consacrera une deuxième heure, peut-être.
Alors, on va écouter, justement, pour en parler un petit peu, pas une deuxième heure, mais on va écouter Cendrillon de Prokofiev dans un quatre mains.
Il vous a tout piqué.
Et oui, il vous a tout piqué, Prokofiev, une querelle à quatre mains, interprétée par Martha Argerich et Mikhaïl Pletnev, qui lui-même a arrangé cette pièce de Cendrillon pour un quatre mains. Et vous allez entendre, les quatre mains se disputent bien. Ça nous permettra peut-être de parler de ce groupe quand même.
Thank you.
Cendrillon de Serge Prokofiev, c'était la querelle pour deux pianos et donc quatre mains, interprétée par Martha Argerich et Michael Pletneff. Pour parler avec vous, Richard Kolinka, de Cendrillon, qui était un tube aussi de téléphone. Téléphone qui a été une longue aventure de 10 ans, je crois.
Oui.
Et qui a démarré comment?
Et exactement, alors comment? C'est que des hasards, en fait. Voilà, donc j'avais un groupe qui s'appelait Semolina à l'époque, il y avait Daniel Roux, j'avais rencontré Jean-Louis Aubert, et donc nous étions en trio, et j'avais trouvé un concert au Centre Américain, qui se trouvait, enfin bon, boulevard Raspail, je crois.
Ouais, dans Paris, voilà. Boulevard Raspail.
Maintenant, c'est la Fondation Cartier, c'était à cet endroit-là. Et donc, je trouve ce concert, et deux semaines avant le concert, Daniel Roux, le bassiste, quitte le groupe.
Ah.
Et moi, c'était avec lui que j'avais commencé la musique. Donc, pour moi, tout s'écroule d'un coup. Plaf, je me dis, mais mon frère s'en va, qu'est-ce que je vais devenir? Et puis, j'appelle Jean-Louis. Au bout d'un moment, j'appelle Jean-Louis et puis je lui dis, écoute, on a ce concert, on va pas l'annuler. À l'époque, c'était très, très dur de trouver des concerts. Aujourd'hui aussi. Hein, mais,
oui, c'est vrai.
Mais à l'époque aussi. Et donc, j'appelle Jean-Louis, je lui dis, écoute, je sais que tu as des morceaux, on fait des reprises, allez, on fait le groupe, il faut trouver deux autres musiciens. Et puis, il me rappelle, il me dit, écoute, voilà, il y a... qu'est-ce que tu dirais de jouer avec Louis et Corinne? Et je connaissais et Louis et Corinne, mais je savais pas que Corinne jouait de la basse. Mmh. Et je savais pas qu'entre-temps, Corinne et Louis étaient ensemble. Donc... je lui ai dit, ah bon, elle joue de la basse. Oh, Louis, bon, ouais. Bon, bah, pourquoi toi? De toute façon, c'est pour un concert. Donc, on répète dans la cave de chez mes parents. Et on prépare le concert. Et c'était ça tombait le jour de l'élection présidentielle, je sais plus lequel, d'un président américain. Je pense que c'était Carter à l'époque. Enfin, je me souviens plus trop. Enfin, peu importe. Et puis, on se dit, moi, je me dis, tiens, on va appeler France 3, ou je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, pour leur dire.
FR3.
Il y a un grand concert de rock au Centre Américain à l'occasion de l'élection du président.
Vous avez fait un coup de com'.
Voilà, au bluff. Et puis on taguait partout, mais on n'avait pas de nom à l'époque. Donc on mettait des points d'exclamation, on mettait des concerts rock au Centre Américain, on mettait des vieilles affiches de Semolina. Et puis arrive le soir du concert et on voit une longue queue. Et au Centre Américain, il y avait plein de salles, il y avait du théâtre, du cinéma, et on se dit, oh, ce serait bien que... On devrait dévier la queue et les faire venir pour nous. Et en fait, tous les gens venaient pour nous. Alors que on était totalement inconnus, mais on avait plein de potes. Et puis, on devait faire juste un concert. On n'avait pas de nom. Et puis, pour moi, c'était...
une affaire d'un soir.
Voilà, je tournais la page et j'allais dans... je sais plus trop où, mais enfin bon. Et puis, ça a tellement marché. Nos potes venaient nous voir. Après, ils sont venus nous voir dans les loges en nous disant « Mais c'est génial, votre groupe, vous devriez rester ensemble. » Puis nous, on l'a senti quand même. On a senti qu'il y avait quelque chose. Et puis, il faut savoir saisir sa chance. Et puis voilà, on a...
On va savoir peut-être tout à l'heure pourquoi téléphone.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors, téléphone, pourquoi, Richard Kolinka?
Eh bien, parce que on ne pouvait pas s'appeler. On aurait bien aimé garder le point d'exclamation, mais point d'exclamation, c'est pas terrible à dire. Donc, on avait tous fait des listes. Et puis, un jour, Jean-Louis m'appelle, il me dit « Qu'est-ce que tu penses de téléphone ?» Et moi, je lui dis « Mais c'est nul, téléphone. » Pourquoi téléphone? Et Jean-Louis, il sait convaincre les gens. pendant une plombe, il m'a parlé. De toute façon, on s'appelait tout le temps aussi. Il me dit, bah, tu vois, c'est un moyen de communication, puis c'est international. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, bon, ok, ok, de toute façon, je m'en fous. On s'appelle téléphone si t'as envie. Voilà.
Alors, on va pouvoir parler d'un autre aspect de la musique qui vous plaît. C'est la 5e symphonie de Mahler, le Zer Langsam, que vous avez découvert dans le film de Visconti, Mort à Venise.
Magnifique.
En quelques mots, Richard Kolinka, qu'est-ce qui vous a plu ?
Je ne sais pas, c'est ce morceau, il donne envie de pleurer. Quoi. C'est toute la tristesse du monde et en même temps, plein de poésie. Et en plus, ça... Les images étaient magnifiques aussi, parce qu'il y avait l'image qui allait avec.
Alors c'est une pièce où l'on entend les cordes et juste la harpe, qui n'exécute que quelques notes pour apaiser l'intensité émotionnelle. Et c'était en effet une pièce de recueillement intérieur. Voici donc la 5e symphonie de Mahler dans son 4e mouvement, Zer Langsam, très lentement, sous la baguette de Leonard Bernstein.
En plus... C'est beau à pleurer, non ?
Oui, Richard Kolinka, c'est vrai que c'est magnifique et ça fait carrément pleurer, vous le disiez tout à l'heure.
Mais oui, exactement. En plus, je crois que c'est vers la fin du film, là où le personnage principal va mourir, je crois, il me semble.
Alors, c'est une symphonie de Mahler et le film de Visconti est une adaptation du roman de Thomas Mann. Thomas Mann et Mahler se connaissaient. Et puis, ça me renvoie quand même aussi à cet aspect de vous, Richard Kolinka, qui était encore mentionné récemment dans la presse. Votre maman, Ginette Kolinka, a vécu la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Oui. Elle en parle aujourd'hui volontiers, facilement, avec beaucoup de force et de vie.
Elle est merveilleuse. Elle est extraordinaire, cette femme.
Elle a su en parler après avoir été interviewée pour le film de Bernstein, semble-t-il. En tout cas, c'est ce qui se dit dans la presse. Elle parlait de ce qui lui était arrivé quand vous étiez enfant, vous ?
Pas du tout. Comme elle dit d'ailleurs, elle n'en parlait pas non plus à ses sœurs. Non, à l'époque. Mais je crois que très peu de déportés en parlaient à ce moment-là. Et en fait, elle avait donc son numéro sur le bras. Et quand j'étais petit, je me demande même si je lui ai pas demandé si c'était pas un numéro de téléphone ou je sais pas trop quoi. Enfin, bon, je comprenais pas. Et s'il y avait bien des livres, je me souviens d'un livre sur la déportation à la maison, mais voilà. Mais bon, on n'en parlait pas du tout.
Et du coup, quand elle s'est mise à en parler, pour vous, ça a été important aussi ? Une libération
Non, je peux pas dire que ça a été une libération. C'était, je pense que c'est surtout pour elle que ça a été une libération. Et malheureusement, on voit bien que ça sert pas d'exemple, que notre passé n'a pas servi d'exemple. C'est triste à pleurer, mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Je pense qu'elle va dans les lycées, dans les collèges, elle fait des conférences, elle amène souvent des collèges à Auschwitz, à Birkenau, et ça a été très intense. On est allé en famille avec mes enfants, ma femme et elle, et ma belle-fille, et ça a été un moment vraiment très intense, parce qu'en plus c'est une personne très drôle, ma mère. Et donc on était à Cracovie. Cracovie est une ville très très chouette, avec plein de bars, très jeune.
Il y a beaucoup de musique klezmer d'ailleurs actuellement.
Et donc c'était très étrange, ce moment où on était à Cracovie et les moments où on était à Birkenau. Et quand on a commencé par Birkenau, et quand vous arrivez dans cet endroit où c'est carrément une usine de mort. Et comme elle dit, on pourra jamais se rendre compte, parce que on n'a ni le bruit, les sons, ni l'odeur. On n'a que des baraquements qui restent. Et elle nous a montré l'endroit où elle dormait, le baraquement où elle dormait. Mais comment un homme peut faire ça à un autre homme ? Enfin, c'est hallucinant, quoi. Voilà, je vais pas vous...
Non, pas du tout, mais ça fait écho avec cette percussion que vous avez su saisir si rapidement, si avec autant de vie et de force, comme pour remplir peut-être aussi des silences ou les faire vibrer. Et ça nous permet aussi de parler du Sacre du printemps de Stravinsky, qui a été un choc, je crois, pour vous,
Exactement.
Richard Kolinka.
Alors, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont musiciens classiques. Je vais les saluer. C'est Bernard Scherer, qui est un fantastique corniste, qui est à la Philharmonie de Paris, et Claire-Hélène Scherer, qui, elle, est violoniste à l'Orchestre de Savoie. Et donc, un jour, Bernard m'appelle, il me dit « ça t'intéresserait de voir une répétition ?» C'est à l'époque, ils étaient encore à Pleyel. Alors, je lui dis « ah bah oui, bien sûr ». Donc, j'y vais, on se donne rendez-vous à 10h du mat', et puis je rentre dans Pleyel, donc avec lui, puis je lui dis « où est la meilleure place ?» Donc, il me la montre, je m'assois, et tout d'un coup, l'orchestre joue pour moi tout seul. J'étais Louis XIV, quoi. J'étais waouh, génial, fantastique. Et là, j'ai vu comment répétait un groupe, un orchestre philharmonique. Parce que moi, en tant que musicien, nous répétons beaucoup. Et là, ça n'a rien à voir, quoi. C'est des mondes parallèles. Et en plus, eux, ils étaient au moins 70. Nous, on est 4, 5, 6. Donc, c'est pas du tout le même. La même chose, quoi. Puis il y a ce chef d'orchestre. Alors, il commence, il joue d'abord l'œuvre. Donc, moi, j'étais là, waouh, génial, fantastique. Et ensuite, il y a une petite pause. Et puis, il dit, bon, il reprend des choses. Moi, pour moi, tout allait bien, forcément. Mais alors, à un moment, il dit, bon, vous, les violons. Et alors, pendant qu'il s'adresse aux violons, et même pas à tous les violons, tout le monde discute. Et puis tout d'un coup, il fait tac, 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 bon, page, machin, tout. Et tout le monde, 3, 4, paf, ils reprennent. Alors là, ça me...
Eh ben 3, 4, on va écouter tout de suite la danse sacrale du Sacre du Printemps, interprétée par Igor Stravinsky, qui dirige l'orchestre. C'est un enregistrement de 1929.
Voilà.
Une interprétation par Igor Stravinsky du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky. Et ça vous émeut, Richard Kolinka?
Eh oui, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre le propre compositeur diriger lui-même son œuvre. D'habitude, on a Mozart, bon, bah, malheureusement...
On a des interprètes magnifiques,
voilà,
mais...
Oui, mais ce n'est pas Mozart qui interprète son œuvre. C'est au travers de merveilleux interprètes, mais bon... Alors que là... Et en plus, on peut le voir, il y a des images d'Igor sur le net. C'est fantastique comment il dirige.
Et c'est vrai que c'est beau à entendre.
Et d'ailleurs, j'avais entendu ce morceau en voiture sur
cette
antenne.
Même antenne.
Exactement.
Eh ben voilà, c'est pas mal.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
On va finir cette émission par une prescription, Richard Kolinka. Comme vous adorez les percussions, je propose qu'on écoute un compositeur encore vivant, Pierre Henry, qui était en concert il y a quelques jours à la Philharmonie de Paris. Depuis ses débuts en 1944, Pierre Henry compose et pense à la musique du futur. C'est l'un des pères de la musique électroacoustique et de la musique concrète. Alors voici l'une de ses dernières œuvres qui s'appelle Continuo. Et c'est la première partie que je vous propose. Ouvrez bien vos oreilles, c'est très percussif. C'est donc un extrait de la première partie de Continuo de Pierre Henry.
Il prend des substances, mais je
ah ben ça, c'est un vrai rocker, wow. Alors pour vous.
Ah, je sais pas, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il fume, lui.
En tout cas, il n'est pas jeune du tout.
Non, je sais.
Et c'est un compositeur encore vivant, on est content.
Mais oui,
parce que
dans mon jeune temps, il avait fait un énorme tube.
La messe pour le
exactement,
temps présent.
Exactement.
Et ça vous avait marqué aussi?
Marqué, oui, quand même, parce que c'était des sonorités nouvelles.
Alors, on va finir ensemble, Richard Kolinka, pour mentionner un artiste que vous aimez beaucoup, qui est passé ici dans l'émission. Il s'agit d'Abdel Malik.
Ah oui, oui.
Vous avez vécu une belle aventure avec lui, que vous aviez envie de raconter, je crois.
Ah bah oui,
les aventuriers.
Pourquoi pas. Oui, j'avais organisé une tournée Les Aventuriers d'un autre monde. Bon, je vais pas m'étendre. Pourquoi Les Aventuriers? Parce que ça part de ma ville. Enfin bon, c'est un festival qui existe.
Votre ville de Fontenay-sous-Bois.
Voilà. Ouais. Et donc, pour me remercier, il m'avait demandé de faire un concert. Et moi, je suis batteur, je n'allais pas faire un saut de batterie. Donc, j'ai eu l'idée de demander à des gens, des potes à moi. Et forcément, enfin, pas forcément, mais je connais des gens un peu connus. Et donc, on avait décidé aussi de faire une tournée. Donc, j'avais appelé Alain Bachou, j'avais appelé Jean-Louis Aubert, bien sûr, Abdel Malik. Daniel Darc,
Raphaël,
Kali, et puis était venu se joindre à nous, mais ça c'était au Zénith de Paris, Grand Cœur Malade et M. Et tous m'avaient dit oui. Et alors le principe c'était de faire deux morceaux d'eux et de faire deux reprises de qui ils voulaient et de se mélanger. Et j'avais. On avait installé un salon sur le côté de la scène pour pas qu'ils partent dans les loges une fois qu'ils avaient fait leur morceau. Et donc, à chaque instant, ils pouvaient venir jouer ou chanter. Et c'était fantastique. Et il y a eu des moments extraordinaires dans les concerts, bien sûr. J'ai des versions fantastiques, notamment La Nuit Je Mens. Enfin bon. Et puis il y a eu des rencontres qui se sont faites. Et visiblement, Abdel Malik et Daniel Darc ont.
Ils se sont rencontrés là.
Voilà. Ou peut-être pas là, mais enfin, disons que.
Ça a tissé des liens.
Voilà, ça a tissé des liens. Et le morceau qu'a écrit Abdel Malik sur Daniel Darc est merveilleux. Et le clip est extraordinaire.
Donc on l'écoute, Abdel Malik, extrait de son album Scarification, qui est beaucoup passé sur notre antenne. Et c'est une prescription par vous, pour les auditeurs, pour nous tous. Merci, Richard Kolinka. C'est aussi donc votre dernier coup de cœur, un hommage à Daniel Darc par le chanteur et rappeur Abdel Malik.
Si tu savais mon cœur, rien. Si tu savais mes yeux, rien. Si tu savais mes mains, rien. Si tu savais mes reins, rien. Si tu savais mes jambes, rien. Si tu savais ma peau, rien. Si tu savais mes cris, rien. Si tu savais mes nuits, rien. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme.
D'un cheval galopant, c'est littéralement qu'il faut le prendre. On ne vit pas suffisamment, précisément, désespérément. Je suis le roi du rock, perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus. La vie te descend, pam, pam, eux te disent va de l'avant. Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sais pas vivre. Le règne glorieux de sa majesté, les mouches, s'ils n'entendent pas qu'ils aillent se faire. Mon cœur déjà bat à rebours. La vie dure un hennissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre. On ne vit pas suffisamment. Précisément, désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus. Cette vie est écœurante, pourquoi m'as-tu mise au monde, maman? Je ne crois plus, je ne vois plus comment me souvenir. Que l'homme est bon, ma résurrection sous les auspices d'Aragon. Que l'homme est con, la poésie ne mène qu'au panthéon. La vie dure un hennissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre, on ne vit pas suffisamment. Précisément, des
Désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanche sont mes vertus. Oh, vite, cité, montre-moi autre chose. Trop de shit, fumée, métamorphose. J'ose à peine devenir grand. Terre, feu, vent, j'ai le flot des doigts glissants. Les frères disent en langage des signes. Donne-moi un héros ou la rue sera mon héroïne. La vie dure à hennissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre. On ne vit pas suffisamment. Précisément, désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanche sont mes vertus. La vie te descend. Eux te disent va de l'avant. Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sais pas vivre. Le règne glorieux de sa majesté les mouches. S'ils n'entendent pas qu'ils aillent se faire. Mon cœur déjà bat à rebours. La vie dure un hennissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre. On ne vit pas suffisamment. Précisément, désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus.
Si tu savais mon cœur, rien. Si tu savais mes yeux, rien. Si tu savais mes mains, rien. Si tu savais mes reins, rien. Si tu savais mes jambes, rien. Si tu savais ma peau, rien. Si tu savais mes cris, rien. Si tu savais mes nuits, rien. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme.
Excellent album Scarification d'Abdel Malik, c'est la chanson de Daniel Darc et c'est sorti en 2015.
En plus, Daniel Darc était une merveille, c'était un prince.
Richard Kulinka, Jean-Louis Aubert a posté sur Facebook une chanson en hommage à David Bowie. Vous pouvez en dire un mot ?
Ah mais il me surprend toujours, moi, Jean-Louis. Là, c'est une merveille, il a fait une version...
De Major Tom.
Oui, de Space Oddity.
Space Oddity.
Très lennonienne. C'est vraiment magnifique.
On écoute l'interprétation par Jean-Louis Aubert.
Vas-y, Jean-Louis.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Come on, sing, calm down, engine song. Check ignition.
Grand merci Richard Kulinka.
Ça fait un plaisir. Passe vite avec vous, la musique classique.
C'est gentil. Et on vous retrouvera en concert pour la tournée des Insus. Toutes les dates sont sur le site de franceinter.fr. Vous pouvez aussi nous laisser des messages.
J'espère que je n'ai pas été trop insupportable.
Insupportable ? Non, pas du tout. Et la musique classique avec vous est passionnante aussi.
Vous avez dit classique ? Sur France Inter.